enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Partager avec vous, donc, comme je le disais tout à l'heure, deux textes dans la Bible. Le premier se trouve dans Josué 3. Et puis, pour ceux qui vont plus vite, vous pouvez déjà retenir Matthieu 3. Josué 3 et Matthieu 3. Josué 3, au verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les 12 tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. » Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville, et notez bien le nom, Adam, d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, c'est-à-dire la mer morte, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance de l'Éternel, s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Et dans Matthieu 3, alors, voici, verset 1er, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Nous avons ici affaire à deux récits d'eau, où il y a de l'eau en jeu. Dans le récit de Josué, comme dans le récit, là, de Jean-Baptiste, puisqu'il est question, là, pour Jean-Baptiste, de baptême. Et dans la Bible, l'eau a toujours eu une signification à la fois symbolique, mais je pense personnellement spirituelle aussi, et efficace dans ses conséquences spirituelles. L'eau qui est aussi comparée à la parole de Dieu, qui lave, qui purifie, qui sanctifie, qui nettoie, qui régénère et qui rend apte à toute bonne œuvre. Et j'aimerais, dans un premier temps, rappeler quelques points très simples. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, nous avons la naissance du monde matériel du monde matériel visible qui est sorti de l'eau. Vous savez que le monde a été sorti de l'eau, hein, c'est dans la création du départ. Donc il y a un monde matériel visible qui a été sorti de l'eau. Dieu a donc créé cela. Dans le livre de l'Exode, vous le trouvez dans le livre de la Genèse. Dans le livre de l'Exode, vous avez la naissance, non plus d'un monde matériel, mais d'un peuple naturel. Là, nous avons affaire à un monde naturel qui sort de l'eau. Dans le livre de l'Exode, nous avons affaire à un peuple naturel, le peuple d'Israël qui sort de l'eau. C'est le cas lorsqu'il passe par la mer Rouge. Vous savez qu'il était en captivité en Égypte, dominé par les Égyptiens, maltraité, les enfants, les fils et hébreux étaient mis à mort. Vous connaissez le récit de Moïse qui a été sauvé au travers des eaux. Et puis, vous savez aussi que Dieu a ramené Moïse de son exil de 40 années dans le désert pour sortir le peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. Et le peuple hébreu, les Hébreux, ont été définitivement libérés, délivrés des Égyptiens, des armées égyptiennes, au moment où ils ont traversé la mer Rouge, ils sont passés par la mer Rouge, les armées ennemies qui ont voulu les suivre ont été englouties par l'eau, et de l'autre côté de la rive, c'est un peuple enfin libéré de ses anciens oppresseurs qui est là et qui commence une vie et une libération, une vie de liberté nouvelle. Donc, Genèse, naissance d'un monde matériel visible par l'eau. Dans le livre de l'Exode, naissance d'un peuple naturel au travers de l'eau. Dans les évangiles, nous avons ici la naissance, dans le baptême du Seigneur Jésus, en tant qu'homme, nous avons la naissance là d'un homme nouveau, le nouvel Adam. Un homme qui va donc sortir de l'eau, qui va s'identifier à nos péchés, nous allons le voir, mais sortir de l'eau comme les prémices de vie, d'exemple, de marche pour tous ceux qui plus tard accepteront de le suivre. En un mot, dans les évangiles, nous avons la naissance d'un homme spirituel, d'un monde spirituel invisible, pourtant réel, qui va se manifester dans le monde visible par une démonstration d'esprit et de puissance, et tout cela au travers de l'eau. Et puis, dans le livre des Actes, nous avons non plus la naissance d'un monde spirituel ou d'un homme spirituel, nous avons dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, la naissance d'un peuple spirituel. Je rappelle que l'apôtre Paul, Pierre, le jour de la Pentecôte, est là. Les disciples sont là dans la chambre haute. Ils attendent la promesse, l'accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus. Et voilà que des langues semblables à des langues de feu se posent sur chaque disciple assemblé. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Et tous se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et à ce moment-là, au bruit qui eut lieu, le vent impétueux, le bouleversement de la prière en langue, ou de la bouleversement du parler en langue, dirons-nous, des prophéties, tout était comme une gerbe surnaturelle de l'Esprit Saint qui montait là devant le peuple de Jérusalem, et bien la foule accourt, saisie, les uns se moquent, bien sûr, il y a toujours des gens pour se moquer, mais d'autres sont honnêtes, d'autres se posent des questions, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les entendons-nous parler dans notre propre langue maternelle, parthe, mède, arabe, crétois, etc. Tout le bassin méditerranéen, les langues du bassin méditerranéen s'y retrouvent. Et puis d'autres, bien sûr, disent, ils sont pleins de vin doux. Ça ne fait rien, Pierre se lève et avec les 11 prêche. Et il dit, frère, c'est ici ce que le prophète Joël a dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, c'est la troisième heure du jour, c'est-à-dire 9h du matin, mais c'est ici ce qu'a prédit le prophète Joël, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, le témoignage de Dieu est pleinement établi, ce Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins, le cœur est bouleversé, la conscience est réveillée, les souvenirs sont vivifiés par cette démonstration d'esprit et de puissance, et vous avez le cri du cœur, le cri de la conscience, homme, frère, que devons-nous faire? Et vous avez encore le message de l'eau, eh bien, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, un peuple, alors, à partir de ce moment-là, 3000 âmes se convertissent, c'est le baptême d'eau, c'est un nouveau peuple, c'est le peuple de la Pentecôte, c'est le peuple chrétien, c'est le peuple qui va alors se développer, se multiplier jusqu'aux extrémités de la terre au fil de l'histoire, c'est le peuple des nouveau-nés, c'est le peuple de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre des cieux. Donc, Genèse, une naissance d'un monde matériel visible sorti de l'eau. Dans Exode, une naissance d'un peuple naturel, Israël, sorti de l'eau par la mer Rouge. Dans les évangiles, c'est la naissance d'un monde spirituel, d'une nouvelle création, d'un nouvel Adam, sorti de l'eau également. Et dans le livre des Actes, c'est la naissance d'un peuple spirituel, le peuple du corps du Christ, le peuple des croyants, sorti de l'eau par le baptême, par immersion d'eau. Et nous retrouvons un petit peu, si vous voulez, ce même phénomène d'homme, peuple, un homme, un peuple. Nous le retrouvons dans le domaine de la tentation. Vous savez que dans le jardin d'Éden, Ève a été séduite, Adam a été tenté et ils ont succombé. Et donc, nous avons là, dans le jardin d'Éden, nous avons la tentation de l'homme naturel. L'homme est tenté. C'est le jardin d'Éden, la chute nous le montre, c'est le combat de l'homme, ou plutôt c'est la tentation de l'homme individuellement, nos ancêtres, nos premiers parents. Dans le livre de l'Exode, vous avez non plus la tentation d'un homme ou d'un couple, vous avez la tentation d'un peuple, la mise à l'épreuve d'un peuple. De même que Adam et Ève ont été testés, mis à l'épreuve dans le jardin d'Éden, eh bien dans le livre de l'Exode, vous avez un peuple qui lui est testé, mis à l'épreuve dans le désert. Donc, tentation d'un peuple à sa sortie de l'eau également, tentation d'un peuple naturel dans le désert, où il a connu la faim, où il a connu la soif, où il a connu les difficultés, il a connu les bénédictions aussi, mais comme le dit Moïse, afin que Dieu puisse voir, et en réalité Dieu voulait mettre en évidence le côté naturel de leur nature, ce cœur mauvais, tortueux et méchant, par-dessus tout, qui malgré les bénédictions qui les avaient accompagnés, eh bien ce cœur naturel s'est manifesté et tout le peuple a révélé que c'était un peuple qui avait le cou roide. Donc, dans l'Exode, tentation de tout un peuple dans le désert, dans les évangiles, vous avez de nouveau un homme, l'homme spirituel qui est tenté, c'est Jésus, dans le désert, avec les trois tentations, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est donc l'homme spirituel qui est tenté. Et puis dans le livre des Actes, et depuis le livre des Actes, depuis la Pentecôte, et dans toute l'histoire de l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est les peuples, c'est le pèlerinage douloureux de l'Église au travers des âges, c'est le peuple de Dieu qui est tenté dans le désert de ce monde, dans le jardin, parfois désert jardin, avec parfois peut-être des bonnes choses, mais malheureusement beaucoup de mauvaises, hein. C'est le pèlerinage, c'est la difficulté, c'est la lutte, c'est la marche. C'est la marche ascendante à la rencontre du Seigneur, mais c'est la marche de la tentation, la marche de l'épreuve, la marche de la mise à jour de tout un peuple, le peuple de Dieu, que le Seigneur est en train de purifier, de nettoyer et de préparer cette épouse qu'il veut sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin qu'elle soit prête pour le retour de l'époux. Dans le récit que nous avons lu de Josué, nous avons là une très très belle image, une très très belle image prophétique. À la fois un miracle évident aux yeux de tous, aux yeux des nations, aux yeux du peuple hébreu pour le fortifier, mais nous avons aussi là une image prophétique extraordinaire de ce que le Christ allait accomplir. Et regardez, d'abord, vous savez que le Jourdain, le mot Jourdain veut dire jugement, et la rivière ou le fleuve du Jourdain, c'est une rivière, et ça est donc la rivière du jugement. Et dans le récit de Josué, nous voyons qu'au moment où les sacrificateurs qui portaient l'arche ont eu le contact avec leurs pieds avec l'eau, eh bien l'eau s'est arrêtée. Il y a eu un amoncellement, un monceau d'eau vers le haut, et l'eau du bas a coulé vers la mer morte, donc vers la mort, vers la mer salée. Mais ce qui est intéressant là-dedans, je vous l'ai dit tout à l'heure pendant que nous le lisions, c'est que l'amoncellement de l'eau a grossi jusqu'à une ville, et pas qu'il n'y avait pas n'importe quel nom. Nous a dit la ville d'Adam, le nom d'Adam. Adam, notre père, à vous comme à moi. Même si vous n'êtes pas d'accord, il était votre père comme le mien. Eh bien, or, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez également, vous avez là une image très belle, déjà prophétique, de ce qu'au moment où l'Alliance, l'Arche de l'Alliance, entre dans le fleuve du jugement, dans le jugement de Dieu, le jugement est bloqué. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et le jugement est bloqué pour qui? Pour toutes les générations qui ont précédé ce moment-là, pour toutes les générations jusqu'à Adam. Et cette vision prophétique, cette action prophétique va se réaliser pleinement, nous allons le voir dans la personne du Christ. Mais c'est déjà quelque chose de formidable et sacrificateur avec l'arche de l'Alliance entre dans l'eau, l'eau stoppe et le monceau d'eau va s'accumuler jusqu'à Adam. C'est-à-dire que le jugement, rappelez-vous toujours quand je dis Jourdain, c'est le fleuve du jugement, le jugement est stoppé jusqu'à nos origines. Il y a une autre chose encore dans cette vision prophétique, c'est les 12 pierres. Vous savez que Josué avait demandé qu'on prenne 12 pierres sur la rive avant de franchir le fleuve et de prendre, et une fois que le fleuve serait à sec, de mettre 12 pierres qui représentaient chacune une tribu d'Israël au milieu du fleuve à sec. Et puis ensuite, on prenait 12 autres pierres au milieu de la rivière et on les portait de l'autre côté. Là encore, je le rappelle, vous le savez, je ne fais que le rappeler, toutes ces choses-là. C'est l'image merveilleuse, non seulement du jugement qui est stoppé jusqu'à Adam, mais aussi de l'identification dans la mort de tous ceux qui allaient traverser cette rivière, l'identification dans la mort, la fin de leur vieille vie, la fin de leur vie ancienne. Ils vont être invités à oublier ce qui est en arrière et à se porter vers ce qui est en avant. Ils vont prophétiquement accomplir le geste de notre identification dans la mort avec Christ, la mort au péché, la mort au malin, la mort au monde, pour, avec les nouvelles pierres de l'autre côté de la rive, sur le nouveau territoire, commencer une vie nouvelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création, une nouvelle créature. Et c'est quelque chose de très intéressant, mais on va aller plus loin encore. Dans la tradition juive, c'est ça qui est intéressant, la tradition juive nous rappelle que c'est à ce même endroit que Élisée, plus tard, va envoyer Naaman, le lépreux, le chef de l'armée syrienne, qui avait entendu parler qu'en Israël, il y avait un prophète qui guérissait les malades et qui pouvait le guérir de sa lèpre. Et vous connaissez comme moi le récit de Naaman qui arrive, qui pensait que Élisée allait faire toutes sortes de gestes kabbalistiques, comme parfois bien des personnes pensent qu'on va le faire, on est des guérisseurs, alors on va faire un gros geste là, et tout le monde va attendre pour qu'il y ait la guérison, mais la guérison vient par la foi. Et donc Naaman s'était construit tout un monde en disant « je vais faire comme ça, je vais lui amener de l'or, etc., des habits, tout ça ». Vraiment, il avait tout calculé. Mais c'est toujours comme ça avec Dieu, quand on calcule, ben Dieu il nous prend par l'autre côté. Et voilà que Élisée lui envoie un serviteur, il ne l'honore même pas, apparemment. Il envoie un serviteur et dit « va te plonger au Jourdain cette fois ». Et tu seras guéri de ta lèpre. Et la tradition juive nous rappelle que c'est à ce même endroit où, avant, des siècles auparavant, eh bien, des années auparavant, Josué était passé où il y avait les pierres. Josué était passé, le passage de l'ancienne vie à la nouvelle. C'est à cet endroit que Naaman s'est plongé sept fois dans les eaux du jugement. Et la lèpre, qui est le symbole du péché, a été enlevée. Ce n'est pas tout, c'est là encore, à ce même endroit, semble-t-il que Jean-Baptiste s'est arrêté, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, mais parce qu'il y avait également un symbole efficace très fort pour la nation juive qui connaissait les Écritures jusqu'au bout des ongles, qui attendait le Messie. C'est là encore que Jean-Baptiste va baptiser et va prêcher, va baptiser les personnes qui viennent suite à sa prédication de la repentance. Et l'endroit, ce même endroit que Jean-Baptiste a choisi, où il y avait beaucoup d'eau, mais aussi qui obligeait, il y a tout un système de baptême, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le même endroit que Jean-Baptiste avait choisi pour que chacun puisse comprendre qu'autrefois, Israël était passé du désert en Canaan, que Naaman, le lépreux, avait été guéri et libéré de sa lèpre du passé pour une vie nouvelle, et que ceux qui se repentaient de leurs péchés entraient dans une dimension nouvelle qu'ils proclamaient comme devant venir parce qu'ils annonçaient le Messie, le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste était donc la charnière, était donc le relais entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Et ça vous explique, ça vous explique que quand Jean-Baptiste parle de ces pierres, que Dieu peut transformer ces pierres pour en faire des enfants d'Abraham, Ça vous explique combien le mot pierre avait une résonance pour les Juifs, puisque c'était dans les eaux du Jourdain qu'il y avait les 12 pierres de la mort, et qui était l'allusion aussi aux 12 pierres de la résurrection. Ce qui veut dire que quelle que soit notre vie ce matin, quelle que soit notre existence, quelles que soient les dispositions internes que nous avons, quelle que soit la dureté de notre cœur de pierre, eh bien Dieu peut transformer ce cœur de pierre en un cœur de chair. Parce que le jugement du Jourdain a été arrêté. Parce que la repentance est prêchée, et nous allons le voir, parce qu'il y a une promesse de vie qui est annoncée dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est là également que Jésus vint pour être baptisé dans les eaux du Jourdain. Alors voyez la chaîne. Les 12 pierres, voyez les eaux qui s'arrêtent jusqu'à Adam, la ville d'Adam. Voyez ensuite Naaman, le lépreux guéri. Voyez Jean-Baptiste qui prêche la repentance, qui parle d'un monde nouveau, qui parle de celui qui baptise le Saint-Esprit de feu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voilà Jésus, l'agneau de Dieu. À partir de ce moment-là, c'est là que Jésus vient pour arrêter le jugement. Et c'est là qu'il faut comprendre l'extraordinaire puissance du baptême physique de Jésus. Imaginez l'arche de l'Alliance autrefois avec Josué qui arrête l'eau jusqu'à Adam. Et maintenant, au moment où Jésus s'engage à prendre notre identité humaine, notre identité de péché en passant par les eaux du baptême, il va rentrer dans les eaux du Jourdain, les eaux du jugement. Il va entrer dans le jugement de Dieu pour que les péchés de tout du monde entier soient supprimés jusqu'à Adam. Frères et sœurs, il y a une puissance d'engagement extraordinaire dans le cœur de Jésus lorsqu'il passe par les eaux du baptême. Et c'est pour cette raison qu'il dira, c'est pour cette raison que lorsque Jean veut s'opposer à lui et lui dit « Mais c'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé », Jésus dira « Laisse faire, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Il ne s'agit pas de baptême des enfants, qui est une tradition qui a été importée des siècles après. Il s'agit du baptême biblique dont Jésus nous a laissé un exemple, puisque Jésus s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans environ. C'est là que Jésus vient dans le fleuve du jugement pour arrêter, pour stopper le jugement de Dieu et porter plus tard, il va s'identifier pleinement sur la croix, porter les péchés du monde entier. Mais c'est là aussi qu'en sortant de l'eau, c'est là aussi que la colombe va descendre, la voix du ciel va se faire entendre. Vous savez que Dieu se manifeste par sa voix, par sa parole. Et bien là, vous avez donc, quelqu'un l'a dit, parfaitement la Trinité, telle qu'on ne peut pas toujours la comprendre, mais on la discerne dans les Écritures. Vous avez le Père qui parle, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous avez la colombe, ou l'Esprit de Dieu qui descend sous une forme semblable à une colombe et qui se pose sur le Fils qui est là dans l'eau. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont unis, vous ne pouvez pas les séparer, vous ne pouvez pas adorer le Saint-Esprit et mettre de côté le Père, vous ne pouvez pas adorer le Fils et mettre de côté le Saint-Esprit. Vous pouvez, c'est toujours uni, l'un agit au travers de l'autre. C'est un Dieu un qui se manifeste en trois personnes. Mais vous ne pouvez pas séparer, tronçonner le Père d'un côté, le Fils de l'autre et le Saint-Esprit de l'autre. Les trois personnalités existent, mais elles sont confondues en un Dieu. Et cela est très important, hein, de ne pas se laisser entraîner dans n'importe quelle doctrine. Vous êtes en communion avec le Père, au travers du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Et nous devons bien réaliser que ces choses sont parfois difficiles à comprendre et la Trinité ou l'expression de la Trinité telle qu'elle se trouve dans la Bible est difficile de cerner, alors nous n'allons pas au-delà de nos possibilités, mais sachons que nous avons affaire à un seul Dieu et que Dieu est notre Père, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, notre Seigneur, et que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, une unité, Dieu est un dans en trois. Et c'est ainsi que notre relation avec Dieu. Jésus dira, si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui. Et nous, Père, Fils, Saint-Esprit, ferons notre demeure chez lui. Il n'a pas dit je, il a dit nous. Il y a donc un pluriel. Donc, si vous voulez, lorsque Jésus sort de l'eau, il vient de s'identifier, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À ce moment-là, la colombe, je dirais, l'Esprit Saint descend sur l'agneau. Et la colombe descend toujours sur l'agneau. J'aimerais rappeler ça ce matin. Combien il y a de personnes qui désirent que Dieu les visite? Combien il y a de personnes qui désirent connaître le royaume de Dieu? Combien il y a de personnes qui désirent être sauvées? Combien il y a de personnes qui désirent voir la gloire de Dieu? Combien il y a de personnes qui désirent expérimenter l'assistance et la vie de Dieu dans leur vie? Alors il n'y a qu'une façon, il faut redevenir la colombe. Et pardon, il faut être comme l'agneau. Le prophète Isaïe, en parlant du Christ, dit, semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il a été emmené à la boucherie. Le Christ est l'agneau qui va se charger des péchés du monde entier. Mais pour que nous puissions expérimenter la colombe venant sur nos vies, nous devons donner notre vie à cet agneau, devenir un avec cet agneau-là. Et l'Esprit de Dieu descend toujours sur celui qui a reçu en lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une loi spirituelle, mais tout simplement une réalité d'amour de la part du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Par la nouvelle naissance, eh bien, le royaume de Dieu et la puissance de l'Esprit Dieu viennent. Je disais donc tout à l'heure, Jean-Baptiste va résumer un petit peu, ou apporter la synthèse, le message réduit de 2000 ans d'histoire. Et il va, si vous voulez, présenter le Christ, montrer la réalité des années passées et montrer les besoins des moments présents par deux images que quelqu'un a décrites comme l'arbre et la vie, et l'arbre et le vent. C'est-à-dire, le vent, vous savez, c'est une sorte de pelle, de fourchette, on prend le grain, on le jette en l'air, le vent enlève la paille autour des grains, et le grain est récupéré. C'est une sorte de séparation qui est faite par le vent, alors qu'on jette les grains en l'air. Alors, il y a deux images dans la Bible, souvent. Rappelle que Jésus se compare parfois au cep, le cep de vigne, où là, Jean-Baptiste utilise l'arbre. L'arbre, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste utilise le symbole, l'image de l'arbre? Eh bien, c'est simple. Ce que vous faites, vos œuvres, vos actions, comme mes actions, ne sont que le résultat, ou plutôt, entre vous et entre moi et mes actions et vous et vos actions, il y a la même relation qu'entre l'arbre et les fruits qu'il porte. C'est la même chose. Les fruits que nous portons révèlent l'arbre que nous sommes. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Jean le Baptiste voit venir vers lui une foule de gens qui, touchés par sa prédication, touchés par la loi, touchés par l'enseignement, repentez-vous, vous avez péché, sont là et veulent se débarrasser du péché qui est dans leur vie. Ils veulent en un mot se dégager de tout ce qui est là, tout ce qu'ils savent qui est contraire à la justice de Dieu. Ils veulent. Mais Jean-Baptiste va leur faire prendre conscience que le problème n'est pas d'enlever les péchés de leur vie, mais que les péchés qu'ils ont sont dus à l'arbre que eux sont. En un mot, au lieu de les laisser dans leur conscience des péchés qu'ils sont en train de vouloir enlever, Jean-Baptiste est chargé de leur montrer que c'est l'arbre qui est mauvais, que au-delà du péché, il y a le cœur de l'homme. Au-delà du péché, c'est l'intérieur de leur vie qui a besoin d'être enlevé. Qu'en un mot, l'arbre donc, qui porte des fruits a besoin d'être coupé. Et il dira déjà, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et il montre qu'il n'y a pas de possibilité de rafistolage de ce vieil arbre, qu'il n'y a que la cognée qui va régler le problème. Donc, il faut bien se comprendre, c'est l'arbre. Donc, on retrouve ça, si vous voulez, un peu dans la... Dans l'humanisme, on pense que l'homme est bon, on pense que l'arbre est bon, et que parce que si l'homme fait des actions mauvaises, c'est tout simplement parce que ses parents, les autres, la société, les mauvaises lois, tout ça est la cause. Alors il suffit de changer le monde pour que l'homme puisse montrer qu'il est très très bon. Or, 20 siècles d'histoire, ou plutôt 60 siècles d'histoire, nous montrent que le problème n'est pas dans le monde, parce que le monde est le produit des hommes. Le problème n'est pas dans l'environnement dans lequel nous vivons. Le problème est dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme est un arbre tordu, excusez-moi de le dire. L'homme est un arbre qui est bon à être jeté au feu. L'homme, c'est cet arbre qui est comme les pierres qui doit être mis au fond des eaux du Jourdain du jugement de Dieu. L'arbre que nous sommes n'a droit qu'à une seule chose, la malédiction de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et vous savez, avant que ça rentre là-dedans, c'est fou ce qu'on se défend avant de reconnaître que finalement il n'y a rien de bon. Et je voudrais dire une chose. Si nous les chrétiens, nous n'avions pas la présence du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour, eh bien, fur et à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne, nous rendons compte de plus en plus qu'il n'y a vraiment rien de bon en nous. Quand je vois les jeunes convertis, ils donnent toujours des conseils, ils sont toujours les meilleurs, hein, ils donnent des conseils. Moi, je me dis, attends, dans quelques années, on en reparlera, tu rabattras ton caquet. Parce que la vie chrétienne, c'est ça. Plus on avance avec Dieu, plus on a conscience qu'on est des pauvres créatures. Et je l'ose le dire, si nous n'avions pas le Saint-Esprit pour nous aider, on se suiciderait devant la réalité que nous découvrons en nous. Et je voudrais le dire encore ce matin, s'il y a quelqu'un parmi nous qui pense encore être quelqu'un de bien, je vous dis tout simplement, vous êtes aveuglé. Vous êtes tristement aveuglé. Vous n'avez pas encore compris qu'il faut que la cognée se mette à l'arbre. Et plus on avance dans la vie chrétienne, moins on se regarde. Parce qu'on dit, comme l'apôtre Paul, rien de bon n'habite en moi. Rien, rien, rien. Rien, et même mes meilleures œuvres ou mes bonnes œuvres sont toutes attachées d'un sentiment qui est vraiment pas beau si Dieu le mettait à l'écran. Vous savez, vous avez un bel écran, hop, allez Seigneur, hop, une projection, boum, Pierre Truchel, oulala. Notre justice est comme un vêtement souillé. Pas moi qui le dis, c'est Dieu, et plus vite on l'acceptera, mieux ça réglera notre problème. Hein? C'est l'arbre, donc Jean met en évidence donc cette prise de conscience. Allez, le fruit, d'accord, voulez-vous débarrasser du fruit, mais le problème, c'est l'arbre. Produisez du fruit. Donc la source, qu'elle change cette source-là. Déjà, la cognée est mise à la racine de l'arbre. C'est l'arbre qui est mauvais. Alors, je voudrais dire cela. Quand Jean-Baptiste dit « produisez du fruit digne de la repentance », il prêche, si vous voulez, cette obligation de Dieu. Allez, la loi, elle est là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Produis du frine, pas du baratin, pas des paroles. Produis des résultats concrets. Montre, fais. Voilà la loi. Mais il veut montrer tout simplement là aussi que ce que Dieu nous demande, nous sommes incapables de le faire. Et je voudrais vous dire que la loi est simplement un pédagogue qui nous montre un standing de vie que Dieu attend. Mais les réalités de la vie nous montrent que nous sommes incapables de vivre ce standing-là. Et ça, c'est très important. Une fois que vous avez compris que vous n'arriverez pas par vous-même, vous êtes déjà sur le bon chemin, et vous comprendrez qu'à ce moment-là, on ne vient pas vers Dieu avec notre justice, mais qu'on vient à Dieu par la grâce. Par la grâce, nous allons le voir. Jean, le message de Jean, si vous voulez, le message charnière, le message carrefour de Jean, n'est pas tellement de pleurer. Il y a des gens qui pleurent toujours sur leurs fautes. Oui, j'ai fait ça. Ben oui, je l'ai fait. Mais le problème, c'est pas de pleurer sur nos fautes. Le problème, c'est de reconnaître que nous l'avons fait et qu'en nous, il n'y a rien de bon. Ne pleurons pas sur nos péchés. Il faut que l'arbre soit coupé. C'est ça ce que Dieu attend, que nous comprenions et que nous acceptions. En un mot, il faut changer d'arbre. Par là, c'est que l'arbre que nous représentons a besoin d'être coupé. Ne pensez pas qu'une rééducation chrétienne va vous sauver. Il n'y a rien de bon en nous. Le salaire de notre vieil arbre, c'est la mort dans le Jourdain, dans le jugement. Alors, Jean présente le nouvel arbre, l'arbre de vie, qui est qui? Le Christ. Voici l'agneau. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Moi, je vous baptise d'eau, un appel, mais c'est lui qui donne la vie. Moi, je viens pour vous montrer une réalité, mais lui vient pour vous apporter la vie. Frères et sœurs, et j'aimerais dire que évangile veut dire bonne nouvelle. Et j'aimerais rappeler ce matin qu'avec Christ, le message est un message de vie. C'est pas un message de pointage du doigt, c'est un message de libération, de guérison, de grâce, de liberté et de plénitude. C'est le message du Christ vivant, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. La Bible dit, maudit est l'homme qui est pendu au bois. Et vous savez qu'en grec, le mot arbre et le mot bois, c'est la même chose. Hein? Et Jean dira, il faut que la cognée soit mise à la racine de l'arbre. Jésus, lui, a été cloué sur un arbre, hein, sur un arbre, afin que par la malédiction,
afin en s'identifiant à l'arbre mauvais que nous sommes, il puisse porter en son corps les péchés du monde entier jusqu'à Adam. Et puis, bien sûr, nous le savons, nous l'avons entendu tout à l'heure, le Christ n'est pas resté dans la tombe, le Christ n'est pas resté dans la terre. Il ne pouvait pas, c'est pas possible que la mort le retienne. Ô mort, où est ta victoire? Ô sépulcre, où est ta victoire? Ton aiguillon, c'est fini. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu le prince de la mort. Christ a vaincu les puissances de la mort. Il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est l'arbre de vie dans lequel chacun d'entre nous, ayant accepté de mourir à notre vie de péché, eh bien, nous puissions recevoir en lui toute la vie de résurrection dont nous avons besoin. Pour illustrer cela, je prendrai trois exemples dans le Nouveau Testament. Le premier exemple se trouve dans Marc 6, on ne va pas le lire, c'est le récit de Jean-Baptiste qui prend Hérode. Vous savez, les prophètes dans l'Ancien Testament avaient la vocation d'aller dénoncer, c'était la bouche de Dieu. Et il fallait qu'ils parlent, même si leur vie a été enlevée. Et Jean-Baptiste va trouver Hérode et lui dit, ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hein? C'était son frère, donc c'était sa belle-sœur. Il y avait donc là adultère. Et Hérode, bon, pour ne pas laisser Jean-Baptiste crier ça tout le temps, le met en prison. Et vous connaissez comme moi qu'à la fin, donc, sa femme demande à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat. C'est les fameuses danses. Et Hérode est obligé de céder et Jean-Baptiste est décapité. Vous avez là le ministère prophétique de Jean-Baptiste. Il ne t'est pas permis. C'est le même ministère que Nathan qui vient trouver David et dit, tu es cet homme-là. C'est le même ministère d'Ésaïe, c'est le même ministère de Jérémie, c'est le même ministère d'Ézéchiel, c'est le ministère d'homme de Dieu, engendré par Dieu, la bouche de Dieu à qui Dieu donne les paroles à prononcer, des paroles de mise à jour, des paroles qui sont là pour montrer le péché. Ça, c'est Jean-Baptiste. Quelques années plus tard, vous avez une même situation, mais encore pire. C'est juste l'apôtre Paul, qui est pourtant un ministère prophétique aussi, hein, l'apôtre Paul, qui est aussi apôtre, qui se retrouve devant un roi qui s'appelle Agrippa. Vous trouvez ça dans le livre des Actes, au chapitre 19. Vous trouvez ça. Et qui est Agrippa, qui est tout simplement, vient avec sa femme. Et vous savez qui c'était cette femme? C'était sa demi-sœur, donc c'était des incestueux. Et vous remarquerez quelque chose de très important. Vous remarquez que Paul n'est pas en train de sortir la mitraillette de sa Bible. Tu as fait ça. Il présente autre chose. C'est un autre message. C'est une autre tournure d'esprit. C'est la tournure d'esprit du royaume nouveau. C'est la tournure d'esprit du monde spirituel. Il ne présente plus le doigt. Il présente l'arbre de vie. Plaise à Dieu, dit-il, que vous soyez comme moi, excepté ces chaînes. Ça, c'est le message de l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais le rappeler ce soir. Nous essayons souvent de lutter contre les péchés, de dénoncer les péchés, de dénoncer les failles des autres, parce que nous sommes les justiciers de Dieu. Alors que nous sommes ni plus ni moins encore, et je le dis pour moi aussi, les ambassadeurs de la vieille alliance. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est ce que le prophète Ésaïe nous révèle dans son chapitre 6. Ésaïe, à un moment donné, a la révélation du sanctuaire divin de Dieu. Et il voit Dieu assis sur son trône. Et les chérubins qui disent « Saint, Saint, Saint » est le Seigneur. La gloire est si forte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il se terre? Non. Il prend immédiatement conscience que lui est pécheur. Dieu ne lui dit pas « Tu es pécheur ». Dieu ne lui dit pas « Tu as débiné avec ta langue ». Dieu ne lui dit pas « Tu as fait ceci, tu as fait ça ». Dieu ne lui dit rien. Dieu se montre et lui prend conscience de ses tâches. Voilà le message de l'Évangile. Nous ne sommes pas là pour lutter contre les choses mauvaises. Nous sommes là pour présenter l'arbre de vie. Et tout homme, toute femme mise dans la lumière de Dieu prend conscience par la révélation du Saint-Esprit de ses tâches à elle. C'est un autre état d'esprit. Le prophète Ésaïe dira « Malheur à moi !» Alors, il est purifié. Voyez, encore, ce petit arraché du feu. Il est purifié. Et à ce moment-là, tout son style de vie change. Et qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de servir, me voici en ma main. La grâce. Dieu ne l'a pas accusé, c'est lui-même qui a pris conscience de ses péchés. Si je suis dans un endroit sombre, où toutes les lumières sont éteintes, si j'ai une plainte, la tâche, mon veston, vous ne voyez rien. Vous avez beau me dire, tiens, tu as ton veston sale, attention avec ta femme, tu vas avoir des problèmes. Je ne vais pas le croire, je ne le vois pas. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment où vous allumez la lumière, je vois les taches. On ne lutte pas contre les ténèbres, on allume la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. Vous savez, c'était Moody un jour on lui a demandé de faire une prédication, un thème, un livre sur la défense de la Bible au moment où il y avait la haute critique allemande qui attaquait l'inspiration de la Bible. Alors il a dit, laissez la Bible, c'est un lion. Et il se défend tout seul et elle se défendra toute seule. Et elle s'est bien défendue, vous savez. Je voudrais rappeler ce soir que Jean-Baptiste est la charnière entre « Repentez-vous » et « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et chaque fois que l'Église, en tant qu'Église, je ne dis pas en tant que chrétien, ça dépend de la conviction de chacun, mais je dis en tant qu'Église, chaque fois que l'Église officiellement a voulu se lancer dans une bataille contre quelque chose, elle s'est fourvoyée. Parce que la mission de l'Église, c'est de travailler, de combattre pour Jésus-Christ, de combattre pour la vie, de combattre pour l'arbre, de combattre pour la vérité, de combattre pour la pureté, de combattre pour la clarté, jamais contre les défauts des autres. Parce qu'on devient justicier des autres, alors que soi-même a besoin d'être repris. Nous ne sommes pas un ministère de condamnation, nous avons un ministère de libération en présentant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous prêchons pour la vie, pour la lumière, pour la vérité, la pureté, et le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le juste jugement. L'Ancien Testament montre donc qu'il faut changer l'arbre, car les fruits sont mauvais. Le Nouveau Testament et la bonne nouvelle de l'Évangile montrent que l'arbre de vie, le Christ, est là, et que nous pouvons et que nous devons naître de nouveau. L'arbre, alors je parlais tout à l'heure, le vent à la main, mais je voudrais terminer par ceci maintenant. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, on ne va pas le lire non plus, Jésus dira dans la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur, pour briser les chaînes des captifs. » Et il y a là un message de vie. Il y a là un message de libération. On n'a plus affaire à un ministère de condamnation, on a affaire à un ministère de vie. C'est l'arbre de vie, le prince de la vie qui est présenté dans tout son impact de puissance de délivrance, de guérison et de pardon. Parce que Jésus est entré dans le fleuve du Jourdain et a se chargé des péchés jusqu'à Adam, des péchés du monde entier. Il a été fait péché pour nous. La malédiction de Dieu l'a frappé pour que par sa mort, vous et moi, nous ayons la vie. Et ce message de grâce que Jésus prononce dans la synagogue, il est valable pour chacun, dans toutes les catégories sociales. Il est valable pour les pauvres, il est valable pour les riches. Et je disais tout à l'heure à l'autre culte, que devenir chrétien, ce n'est pas demander aux riches de donner leur argent aux pauvres, parce que les pauvres, souvent, le dilapident en deux minutes. Hein. Et finalement, il n'y a plus de riches ni de pauvres, que des pauvres. Parce qu'il y a des pauvres qui sont responsables parfois aussi de leur pauvreté, de leur mauvaise gestion. Parce qu'ils ne sont peut-être pas capables d'assumer réellement une gestion convenable. Et Dieu n'a jamais demandé que les riches se dépouillent. Dieu a simplement amené par le message de l'Évangile, Dieu prend les pauvres en bas et les amène à lui. Le Christ les prend et les amène à son niveau. Et de la même façon, le message de l'Évangile parle aussi aux riches et les amène à sa hauteur à lui. Non pas en les dépouillant de leurs biens, mais en leur montrant l'esprit dans lequel leurs biens doivent être gérés et utilisés. C'est tout autre chose. Ce n'est pas un communisme autoritaire. C'est tout simplement rendre conscience de l'homme, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il est dans la main de Dieu. Et quoi qu'il fasse, il fasse tout pour la gloire de Dieu et par amour pour son prochain. Alors, riches et pauvres, il abaisse à lui, Jésus s'est fait pauvre, il est un exemple pour les riches. Et Jésus amène les riches parce qu'il était riche quand même. Et en toute chose, il n'a jamais manqué de rien. Mais ce que je voudrais dire ce soir, que le message de l'Évangile est un message de grâce pour tous les hommes, pour toutes les catégories sociales, pour toute race, pour toute langue, pour toute culture, pour qui que ce soit. Vous savez, un frère m'a raconté à l'école biblique en Afrique, là au Centrafrique du moins, un jour il expliquait aux étudiants, vous savez, dans certains, bon là-bas, il y a un peu, des frères ils viennent toujours s'installer chez les autres dans leur famille, ils vivent un peu au crochet. Alors il leur disait, écoutez, hein, dans la Bible il dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, alors puisque vous n'avez pas d'argent, rendez au moins service aux membres de votre famille en rendant des services. Alors il y en a un qui se levait dans l'école biblique, il dit, frère, vous ne comprenez pas la mentalité africaine. Ah, il dit, je comprends peut-être pas la mentalité africaine, mais je comprends ma Bible et je sais ce que c'est que le cœur humain. Il est le même partout. Vert, jaune, rouge, blanc, noir, c'est la même chose. Le cœur humain a besoin d'être coupé et d'être remplacé par un cœur de nouveau. Et alors, c'était le frère Don Luz, hein, pour lui demander quand il reviendra. Hein, pourtant, il est bien aimé là-bas. Hein. Ah, il m'a dit, tu sais, j'ai créé un petit peu un problème dans ton école là-bas. Mais je lui ai dit, tenez bon frère, c'est la vérité, il faut y aller. Hein. Alors, c'est donc un message de grâce pour toutes les catégories sociales, riches, pauvres. Et je voudrais rappeler ce que je disais dimanche dernier. Le message de l'Évangile n'est pas seulement pour les marginaux. Hein, je voudrais le dire. Le message de l'Évangile n'est pas seulement pour les gens qui souvent ne veulent pas travailler. Ça aussi, Dieu veut les changer. Le message de l'Évangile n'est pas seulement aussi pour les blessés du chemin. Le message de l'Évangile est aussi pour des gens corrects, des gens sérieux, qui ont travaillé depuis leur jeune âge, qui ont des diplômes, qui ont des résultats, qui ont bossé. Et alors que d'autres parfois les envient et les jalousent parce qu'ils ont été paresseux alors que les autres ont travaillé. Et je voudrais dire ce matin que l'Évangile est pour tous et que dans nos églises, il doit y avoir des riches, des pauvres, des bien portants, des malades. Les malades, on s'en occupe et les bien portants s'occuperont des malades. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes tous un par la grâce de Dieu et parce que le jugement de Dieu a frappé le Christ. Nous ne voulons pas une église que d'estropiés et nous ne voulons pas non plus d'église où il n'y a que des gens bien portants. Nous voulons la miséricorde de Dieu démontrée et nous voulons aussi la stabilité, la vérité. Nous voulons des gens corrects, nous voulons aller de l'avant. Alors je dis ça, ce n'est pas que je juge les uns ou les autres, mais je veux simplement montrer que parfois, comme c'est un peu le phénomène du siècle, parfois, on s'occupe que des délinquants et on ne s'occupe pas de ceux qui ont été, ceux qui ont souffert à cause d'eux. Alors, depuis que quelques temps, les voix crient, alors on est en train de changer la jurisprudence. Mais je voudrais dire, Dieu n'est pas comme ça. Pour Dieu, chacun d'entre nous, nous avons la même valeur. Pour Dieu, Dieu nous aime tel que nous sommes. Et si je suis riche, merci Seigneur de ce que tu l'as permis. Et je profite pour te servir. Si je suis pauvre, alors profite pour devenir riche en Dieu. Et sers le Seigneur tel que tu es. Et Dieu te bénira. Si tu as telle condition sociale, eh bien ne te plains pas, prospère, va de l'avant avec l'Esprit de Dieu. Et si tu es trop haut, alors descends jusqu'à la hauteur du cœur de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous voulons vivre heureux. Parce que le message de l'Évangile est un message de bonheur. Et dans Jérémie 9, il est écrit au verset 23, ça on va le lire ensemble. Jérémie 9, 23, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Voulez-vous ce matin réaliser ce que c'est que l'arbre de vie en nous, Christ en nous? L'espérance de la gloire, c'est tout simplement faire plaisir à Dieu. Comment pouvons-nous faire plaisir à Dieu? En étant ce qu'il est lui-même. Et qu'est-ce que dit ce texte? Que Dieu prend plaisir à la bonté et à la bienveillance. Vous pouvez changer ce nom de bonté, bienveillance, mettez loyauté. J'ose le dire, il y a très peu de loyauté maintenant dans le monde et il y en a de moins en moins dans le peuple chrétien. Chacun regarde ses intérêts et pour se déguiser, on dit que Dieu m'a dit. Vous savez, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Et on utilise toutes sortes de combines pour y arriver. On ne respecte plus les autres, on ne respecte plus le territoire d'autrui, on ne fait rien. Dieu m'a dit. La fin justifie les moyens. Quand on n'arrive pas à justifier, on dit Dieu m'a dit, alors c'est fini. Dieu m'a parlé, moi je suis à stratosphère, c'est fini. Je voudrais rappeler ce matin que Dieu prend plaisir à un homme et à une femme qui savent rester loyaux. La loyauté est quelque chose qui se meurt, mais qui est impérissable dans le peuple de Dieu. La loyauté dans nos relations avec Dieu, la loyauté dans nos relations avec nous-mêmes, c'est parfois dur. La loyauté dans nos relations avec notre prochain, la loyauté dans nos relations avec les frères, avec les sœurs, avec l'Église à laquelle nous appartenons, la loyauté avec tout ce que nous sommes et avons. Ça, Dieu prend plaisir. Être loyal, pas être des faux fuyants, pas être des serpents fuyards, pas fuir des responsabilités qui entraînent une déloyauté. Chers amis, ce matin, je voudrais dire, Dieu prend plaisir à la bienveillance. Et pour ça, nous avons la solidarité, la fidélité. Ça fait partie de l'arbre de vie en Jésus-Christ. Il est le fidèle, il est le véritable. Nous avons tout pleinement lui pour vivre ces choses. Ce n'est pas sur nos forces, c'est sur lui et en lui que nous restons et que nous demeurons. Dieu prend plaisir à la droiture. la droiture. Ce qui éclate n'est pas comme ça. Hein? Et combien de gens qui nous voient, combien on cherche des excuses pour ne pas faire ceci, combien on cherche des excuses pour ne pas se faire cela, combien on prend des chemins tortueux et à un moment donné on dit « mais Dieu ne me parle plus, Dieu ne me parle plus ». Mais c'est normal, on ne se moque pas de Dieu. Mais combien la droiture. Je voudrais rappeler ce matin que Dieu prend plaisir à la droiture. Nous allons prendre la Sainte Cène. Pouvez-vous regarder votre cœur et dire « il est droit ». Il est droit, oui, je veux être droit. Je veux. Vous savez ce que c'est que le péché ? On essaie toujours de dire, toi t'as péché. On se culpabilise à outrance et on s'en sort plus. Hein. Et on sort avec des sacs de nœuds, c'est incroyable. Alors qu'est-ce que c'est que le péché ? Eh bien, je veux le dire, ce matin, pendant que vous êtes assis sur le chemin, vous savez quel est votre péché ? Ce que vous savez au fond de vous-même qui est mal face à Dieu. C'est pas le reste, c'est ça, votre péché. Ça ne veut pas dire que je ne pêche pas. Mais comment est-ce que je vais me libérer ? Pleurer sur mes défauts, pleurer comme Paul et Juif, oh, je veux être débarrassé. Non, c'est tout simplement compter sur l'arbre de vie sur lequel j'ai été greffé. Mais vivre dans la lumière, confesser mes péchés. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc ce n'est pas le péché qui me sépare de Dieu, c'est mon manque de confession, mon manque de lumière. Face à ce qui peut m'arriver encore dans la vie. La droiture et puis la justice. Bien sûr, la justice, c'est la foi dans la justice de Dieu en Jésus-Christ et que je viens de vous donner un aspect. Mais c'est aussi la vie du cœur. C'est aussi vouloir rester dans la lumière et reconnaître le verdict de Dieu sur nos actions. Reconnaître nos verdicts de Dieu quand des fois nous dérapons. Reconnaître que nous avons parfois besoin de revenir. Et ça, si nous vivons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous lave et nous purifie de tout péché. C'est écrit, quel que soit votre péché ce matin ou le mien, il est cramoisi, c'est comme le cramoisi, notre cœur deviendra blanc comme la neige. Pourquoi ? La grâce, l'arbre de vie. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi dans ces instants et te demandons de nous bénir tous ce matin, de nous faire du bien, parce que tu es l'arbre de vie, parce que tu es celui qui nous aime, parce que ton Fils est entré dans le jugement du Jourdain pour que nous ayons la vie. Oh, ce matin, tu nous enrichis tous, Seigneur, et tu nous gardes dans ta paix, dans le nom précieux de Jésus. Amen.